Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Michel Duclos, ancien ambassadeur, notamment en Syrie d'ailleurs, et aujourd'hui conseiller spécial à l'Institut Montaigne, qui vient de publier « Le monde des nouveaux autoritaires », ce qui fait suite d'ailleurs à votre précédent livre « La longue nuit syrienne ». « Le monde des nouveaux autoritaires », vous dressez une galerie de portraits, on a l'impression que le monde est peuplé de dictateurs.
Bonsoir Pascal. Alors d'abord, je voudrais dire que c'est pas mon livre, c'est un livre collectif.
Collectif que vous avez dirigé, là, directement.
J'ai dirigé, et la caractéristique, c'est effectivement, c'est une galerie de portraits. Donc il faut avoir ça en tête, c'est pas une construction intellectuelle, c'est pas une approche doctrinale. On est parti d'une dizaine de portraits des maîtres qui nous gouvernent, des nouveaux maîtres du monde. Manifestement, ça a touché une corde sensible, parce que nos lecteurs, c'était sur le blog de l'Institut Montaigne, nos lecteurs nous en ont demandé plus. Ils ont dit, mais pourquoi vous avez mis un tel et pas un tel, Netanyahou par exemple. Il y a aussi un débat, mais vous mélangez les populistes, alors il y a des vrais dictateurs, pourquoi vous faites ça? Et donc, ça nous a conduit à la fois à allonger notre liste de portraits, et c'est le but de mon introduction, avec un éditeur, à mettre un peu les choses en perspective.
Oui, parce que vous dites que c'est pas un livre théorique, mais enfin, vous théorisez au départ, dans votre introduction, dans votre préface, et notamment, vous faites un parallèle historique. Dans votre livre « La longue nuit syrienne », vous disiez que ce qui se passe en Syrie faisait écho, en division de perception, à ce qui se passait en Espagne dans les années 36. Et là, vous ajoutez que, finalement, entre Poutine, qui est un peu revanchard, et Xi Jinping, qui aussi veut compenser les humiliations du passé, vous dites qu'il y a un revanchisme qui fait écho à celui de l'Allemagne dans les années 30. En même temps, ni Poutine, ni Xi Jinping n'ont écrit « Mein Kampf ».
Non, et c'est clair que toute analogie historique a ses limites. Je voudrais dire très simplement les choses. Je suis diplomate, donc fonctionnaire, et par nature très empirique. Donc je prends les choses de manière pragmatique, en observant ce qui se passe sur la scène du monde. En même temps, pour être diplomate, on n'en est pas moins homme. Et on essaie de comprendre. J'ai été effectivement frappé lorsque j'ai écrit la longue nuit syrienne par le fait que le conflit syrien a été l'incubateur de la montée en puissance d'un certain nombre de régimes, qui sont des régimes autoritaires. D'abord Poutine, la Russie de Poutine existait avant le conflit syrien naturellement, mais c'est à travers la Syrie qu'elle a pris un très grand prestige au Proche-Orient et au-delà, qu'elle a réétabli sa position comme une puissance très importante dans les affaires du monde. Erdogan, en Turquie, aurait peut-être connu la dérive autoritaire qu'on lui connaît sans la Syrie, mais malgré tout, ça y a quand même contribué. Et puis, par le terrorisme et l'émigration, ça a donné un coup de pouce formidable en Europe aux leaders populistes, Kaczynski, Orban, Salvini, etc. Et donc, à travers cet exemple de la Syrie, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un phénomène, que vous avez une collection d'autoritaires, de semi-autoritaires, d'aspirants à l'autoritarisme, qui à force finissent par faire système.
Faisons peut-être une petite parenthèse sur l'affaire syrienne. De nombreux acteurs, notamment François Hollande, Laurent Fabius, mais également Emmanuel Macron, dans son interview à The Economist, dit que c'est à partir du moment où Barack Obama a refusé de frapper le régime syrien après l'usage par celui-ci d'armes chimiques, qu'il y a eu une sorte de déclenchement, et que ça a conduit Poutine à annexer la Crimée, et que ça a permis à Bachar de rester au pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien et que, de toute façon, est-ce qu'il n'y a pas quand même deux agendas tout à fait différents pour Poutine, l'Ukraine, la Crimée, avec un effet d'opportunité suite aux événements de Maïdan, et l'affaire syrienne? Est-ce que vous liez vraiment, vous aussi, les deux affaires?
Je crois que Poutine a décidé, pendant l'hiver fatal 2011-2012, que l'intérêt de son pays, c'était la confrontation avec l'Occident et l'intérêt de son propre régime intérieur. Et donc là, il a mis en place une politique que j'appelle pompeusement de repolarisation du monde. Il a perçu l'Ukraine comme une occasion de mettre en œuvre son agenda. Alors, bien sûr, il avait des tas de raisons de vouloir stopper ce qui est dans sa perception et le départ de l'Ukraine vers le monde occidental, mais c'était très important pour lui de marquer le coup. Il en a tiré un immense bénéfice sur le plan intérieur, et en même temps, sur le plan extérieur, c'était un risque, c'était compliqué. Et l'affaire syrienne s'est présentée en 2015 comme l'occasion pour lui de distraire l'attention de ce qui s'était passé en Ukraine. Je crois d'ailleurs qu'en Syrie, il y est allé au départ assez modestement, avec des moyens pas considérables, puis il s'est aperçu que les Occidentaux ne posaient aucune résistance. Il s'est aperçu que ça lui rapportait beaucoup. Et donc, il a accru son engagement en Syrie, je crois, de façon assez pragmatique, fondamentalement. Mais Pascal, vous avez raison, un paramètre très important dans la montée en puissance de ces régimes, c'est l'absence de l'Occident, le recul de l'Occident, le fait que l'Occident n'y croit plus vraiment, et cela d'autant plus qu'il est lui-même en crise, c'est la crise des démocraties libérales, c'est ce qu'on appelle, dans un vocabulaire peut-être un peu galvaudé, la vague populiste.
Dans votre préface, vous dites qu'il y a eu un moment Fukuyama. Un moment Fukuyama d'optimisme, et que la plupart de ceux que vous mettez dans les portraits étaient plutôt du bon côté dans les années 90, je ne l'avais pas mis dans dans la case des nouveaux autoritaires. Et à l'époque, Xi n'était pas au pouvoir, mais Orban apparaît comme étant tout à fait fréquentable. Il n'y a pas tous ces visages de nouveaux autoritaires dans les années 90. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on perde le fil ainsi ?
Alors, c'est toujours difficile de resituer dans l'histoire. Et par exemple, là, en ce moment, on vit l'anniversaire de la chute du mur. Et quand on parle de la chute du mur, on veut symboliser tout le mouvement d'émancipation qui s'était produit d'abord en Pologne, en Hongrie et finalement en Allemagne de l'Est, bien entendu. Et d'excellents articles, comme celui de Sylvie Kaufmann, expliquent qu'en réalité, l'actuel désarroi de l'Occident et les actuelles divisions transatlantiques étaient déjà en germe en 1989. Mais je crois quand même qu'il y a eu cet épisode de confiance en soi. On n'a pas vu venir sur le moment la montée en puissance de la Chine et des autres émergents, et on n'a pas mesuré l'impact des erreurs que faisaient les Américains dans les années 80, notamment l'invasion en Irak. Et donc, au fond, ce que je crois, c'est que ce qui s'est passé de façon très schématique, il faut mélanger le récit économique, la globalisation, la crise de 2008, et le récit géopolitique, la montée en puissance de régimes qui ne sont pas les régimes occidentaux classiques, notamment la Chine et les autres émergents. Et si vous mélangez les deux, vous apercevez que dans les années, à la première décennie du XXIe siècle, il y a un rééquilibrage du rapport des forces, à la fois économique, politique, militaire, ce qu'on appelle parfois la désoccidentalisation du monde. Et dans la deuxième décennie du XXIe siècle, ça s'accompagne de la crise interne des démocraties libérales. Et donc, c'est le monde des nouveaux autoritaires.
Vous pointez quand même que les Occidentaux ne sont pas exempts de toute critique, et notamment, vous écrivez que l'intervention américaine en Irak en 2003 était un tournant extrêmement négatif, dont on paye encore le prix.
Je ne suis pas très original en disant ça. Je crois
Il y a des gens encore qui le nient.
C'est un fait difficilement contestable, je crois.
Oui, enfin, il y a encore des gens qui le nient ou qui nient avoir soutenu cette intervention à l'époque. Et en même temps, dans la galerie de portraits que vous dressez, eh bien, en fait, il y a... c'est très divers au sens où vous faites pas une division entre les démocraties où on vote, où il y a un système compétitif et les régimes autoritaires. Disons que la distinction est beaucoup plus subtile et beaucoup plus compliquée que du temps de la guerre froide où c'était vraiment l'Est et l'Ouest. Et là, en fait, ces nouveaux autoritaires, ils sont un peu partout, y compris dans ce qui est la famille occidentale. Donc, ce n'est pas le Nord, le Sud, ce n'est pas l'Est et l'Ouest, c'est beaucoup plus compliqué que cela.
Exactement. C'est tout à fait ça. Nous avions, dans notre jeunesse, si je peux me permettre, Pascal, un système binaire, qui d'ailleurs en réalité était plutôt ternaire, parce qu'il y avait quand même le tiers-monde non aligné, etc. Mais les frontières étaient claires. Aujourd'hui, les frontières sont beaucoup plus poreuses. Et aujourd'hui, nous avons une espèce de mosaïque de régimes hybrides. C'est-à-dire un certain nombre de pays. Alors, il y a évidemment des autoritarismes complets comme la Chine, mais même la Chine, c'est en cela que c'est un régime nouveau.
Oui, ce n'est plus la chaîne de Mao.
Chaîne de Mao, c'est une Chine qui s'est convertie au capitalisme. La Russie de Poutine, c'est une Russie où il y a quand même les apparences de la démocratie, ce n'est pas l'URSS. Et donc vous avez ces pouvoirs autoritaires. Et vous avez le cas américain de Trump, qui est incontestablement des tendances autoritaires, mais qui est enserré par un régime de check and balance, des institutions démocratiques fortes, des élections, etc. Et entre les deux, vous avez plein de systèmes intermédiaires. Et le cas le plus intéressant, évidemment, c'est le cas des démocrates, qui, en passant par la case populiste, deviennent des autoritaires. Et donc les figures emblématiques, c'est Orban et Erdogan.
Alors vous dites que il y a dans ces nouveaux autoritaires des traits communs, malgré leurs différences. Il y a toujours, bien sûr, à la fois des choses globales et des choses très nationales. Parmi les traits communs, il y a une forme ou autre de xénophobie, qui sont dans chacun de ces régimes, une volonté un peu de supprimer ou de mettre au pas les corps intermédiaires, le contrôle des médias, et surtout la mise au pas des contre-pouvoirs comme la justice et les ONG.
Tout à fait, et c'est là qu'on voit ce que j'appelle une boîte à outils commune. Mais encore une fois, je voudrais le souligner, c'est pas un livre schématique. Hein. Justement, tout le message, c'est là, c'est qu'il y a des gradations, des nuances, des degrés. Et donc, la xénophobie, le nationalisme ou le contrôle des médias est réparti de façon différente chez les populistes qui opèrent encore dans des vraies démocraties ou chez les vrais autoritaires affirmés, bien entendu. Cependant, ça a des conséquences géostratégiques. Ce n'est pas seulement une question de régime. Et nous, en France, on a tendance, dans l'analyse des relations internationales, à minimiser l'importance des régimes. En réalité, les régimes font partie du diagnostic géostratégique. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a quand même une affinité. Et que, par exemple, si on prend le cas européen, ce n'est pas un hasard que ce soit un gouvernement populiste italien qui est signé avec la Chine cet accord sur les routes de la soie que les autres membres du G7 ont refusé. Ce n'est pas un hasard si Orban est la porte d'entrée en Europe à la fois de l'influence russe et de l'influence chinoise. Et donc c'est cela qui doit mettre en alerte nos dirigeants.
Et alors, dans les démocraties où il y a des contre-pouvoirs, comme au Royaume-Uni et aux États-Unis, n'êtes-vous pas inquiet de la violence de la tonalité politique? C'est qu'on est arrivé quand même à une opposition entre les personnes qui, pour l'instant, n'est que de la violence verbale, quoiqu'il y ait une députée britannique qui a été assassinée pour s'être opposée et été une adversaire du Brexit. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de syndrome inquiétant dans des démocraties bien établies où l'insulte devient le mode du débat politique?
C'est un syndrome très inquiétant et qui, là, pour le coup, rappelle tout à fait l'atmosphère des années 30, malgré tout. Alors, il n'y a pas de chemise brune dans les rues de Budapest. Hein. Il faut, encore une fois, ne jamais transposer tel quel. Mais Je voudrais revenir sur ce point que c'est une série de portraits, donc on apprend beaucoup en examinant la biographie de chacun des personnages qui sont présentés. Le portrait de Trump est dû à la plume de Gérard Araud, notre ancien ambassadeur, qui a fait paraître récemment ses mémoires. Et il montre très bien que le style de Trump a dégradé considérablement l'état du débat. Et l'état du débat a un rapport avec un autre point très important qui est les mœurs politiques. C'est-à-dire, vous pouvez avoir les meilleures institutions du monde. Ce qui compte à la fin des fins, c'est la vertu des hommes. Et en réalité, il ne le dit pas de cette façon, hein, mais moi je le dis, le parti républicain aux États-Unis est très décevant. C'était un parti libre-échangiste qui est devenu protectionniste. C'était un parti soucieux du rôle des États-Unis dans le monde. Il est devenu isolationniste, etc. Donc là, on voit combien le personnage populiste arrivé au pouvoir réussit, même lorsqu'il y a un système de check and balance très fort, à modifier l'atmosphère et à corrompre la démocratie en profondeur.
Dans vos portraits, vous distinguez plusieurs catégories, principalement trois, les nationaux populistes, les néo-autoritaires et les autoritaires assumés, qui correspondent peut-être plus aux autocrates traditionnels.
Voilà, alors dans notre publication initiale sur le blog de l'Institut Montaigne, on avait présenté ces portraits dans le désordre pour mieux faire ressortir justement qu'on mélangeait des salades et des légumes pour laisser au lecteur le choix d'apprécier lui-même le dosage dans la boîte à outils qui est commune à tous ces personnages. L'éditeur nous a demandé, pour des raisons pédagogiques, de les regrouper par famille, si je puis dire, ou par fratrie, et nous avons choisi cette division, libre au lecteur d'ailleurs d'en choisir d'autres s'il le souhaite, mais elle a le mérite de faire ressortir qu'effectivement il y a deux pôles. Il y a un pôle autoritaire, autocratique classique, un pôle démocratie en voie de déviation ou de déréliction ou de régression, et entre les deux il y a des personnages en transition. Et cette division n'est pas la seule possible, hein, évidemment, mais elle a ce mérite de montrer ce caractère de régime hybride qui évolue les uns et les autres dans telle ou telle direction.
Par rapport à Donald Trump, la question que vous posez, c'est est-ce que son maintien au pouvoir jusqu'en 2020 ou 2024 va finalement abîmer le régime américain, ou est-ce que celui-ci va se redresser reprendre son équilibre après le départ de Trump?
C'est une question fondamentale. Je suis optimiste et comment dirais-je, fidèle à une certaine idée de l'Amérique, c'est-à-dire je pense que la société civile américaine reste extrêmement dynamique, que la société civile a beaucoup de capacités de résistance, mais après tout, on n'en sait rien. Parfois, le tragique de l'histoire imprime une direction tout à fait inattendue aux choses. Ce qui est certain, c'est qu'indépendamment de ce qui se passera en Amérique, l'ordre mondial sera très modifié selon l'heure du départ de Trump. L'une des caractéristiques du monde des nouveaux autoritaires, c'est que tous, les uns et les autres, étant animés par un nationalisme fervent, n'aiment pas les structures de coopération internationale, n'aiment pas ce qu'on appelle dans notre jargon le multilatéralisme. Et Trump, c'est quelqu'un qui, avant tout, au plan international, ne veut pas entendre parler de multilatéralisme. Il s'en prend même au projet européen, qui pourtant est un projet nourri par l'Amérique. Et ça, on peut survivre à ça. La coopération internationale peut survivre à 4 ans de Trump. 8 ans, ça laissera des traces considérables.
Ouais. Dans votre conclusion, vous parlez aussi un peu du pari de Macron par rapport à Poutine, pari qu'il a encore renouvelé dans son interview à The Economist, qu'il avait déjà lancé lors de la conférence des ambassadeurs. Et vous semblez un peu, en tous les cas, être dubitatif par rapport à la capacité de Macron de ramener Poutine à un autre comportement.
Encore une fois, je crois que Poutine a fait des choix. Je ne crois pas que ces choix résultent, selon le récit devenu dominant en France, de nos erreurs, c'est-à-dire naturellement.
C'est un récit plutôt minoritaire dans les médias, mais...
Non, parce qu'il est devenu majoritaire maintenant, et les mêmes qui rejettent la repentance pour le reste du monde pratiquent la repentance à l'égard de la Russie. Alors, que nous ayons commis des erreurs, ça va de soi. Mais c'est pas ça qui a été déterminant dans l'évolution de la Russie. C'est des facteurs internes. C'est des choix, notamment de Poutine et de l'élite russe. Comment est-ce qu'on peut modifier cette trajectoire? Je ne peux pas dire que c'est impossible. Je n'en sais pas plus que quiconque. Mais je crois que ce sera extrêmement difficile parce que les ressorts sont très profonds. D'autant plus que ce qui est notre seul levier à nous, Européens, c'est l'économie, c'est la technologie. Or, justement, l'une des caractéristiques de Poutine, c'est que depuis une dizaine d'années, il a renoncé à s'occuper de réformer son économie et à renouer avec l'insertion de la Russie dans la globalisation, et ça réduit d'autant plus notre marge de manœuvre. Ceci dit, qu'il n'y ait pas de malentendu, je suis, comme tout le monde, partisan de dialoguer avec la Russie. Et c'est clair qu'il faut peut-être, il faut certainement y mettre beaucoup de précautions. Il faut peut-être éviter, ma réserve à l'égard de la démarche du président de la République, de construire des châteaux en Espagne, donc d'avoir un langage trop ambitieux et trop optimiste. Mais malgré tout ceci étant dit, il faut naturellement parler aux Russes.
Alors, vous avez quand même une conclusion avec une pointe d'optimisme après avoir dressé des portraits quand même très très pessimistes. Bon, si vous dites que les nouvelles formes d'autoritarisme, est-ce qu'ils vont prendre le relais de la société démocratique? Mais vous pensez que non, sous certaines conditions, le libéralisme peut se renouveler, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de leadership? Quels sont les grands leaders libéraux qui peuvent s'imposer sur la scène internationale et faire valoir leurs propres valeurs? Est-ce qu'il n'y a pas une crise du leadership chez les libéraux?
D'abord, la raison d'être optimiste, c'est que peut-être, y compris grâce à Trump, c'est un peu la ruse de l'histoire, peut-être que la marche de la Chine vers l'hégémonie va être arrêtée. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que la crise du modèle autoritaire a commencé et va relayer la crise de la démocratie libérale. On le voit à Alger, à Khartoum, à Istanbul, à Moscou.
Il y a quand même des bonnes nouvelles, effectivement.
Voilà, il y a des bonnes nouvelles, même s'il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas demain que la démocratie va triompher dans ces pays, mais ça rappelle ce qui s'était passé en Europe au XIXe siècle. Le printemps des peuples, ça a mis très longtemps à aboutir, mais ça finit par aboutir. Donc on est un peu dans cette situation. Et ce qui est très important pour les libéraux, ceux qui croient à la démocratie, c'est de tenir. Et là, effectivement, c'est important dans ce monde où ce n'est plus seulement la représentation qui compte, c'est aussi l'incarnation. C'est important d'avoir des leaders qui soient à la fois charismatiques et qui soient des vrais libéraux.
Merci Michel Duclos. Je renvoie à la lecture du livre dont vous avez dirigé la publication, qui est fait par une vingtaine de co-auteurs, tous brillants universitaires ou brillants essayistes. Donc, Le monde des nouveaux autoritaires, un livre collectif sous votre direction, publié aux éditions de l'Observatoire.
Merci Pascal.